résurrection n'a pas de sens.
Ni la résurrection sans la croix d'ailleurs. C'est ce que les apôtres de Jésus-Christ nous annoncent dans le Nouveau Testament, l'évangile que nous avons reçu et que nous voulons vivre. Toute notre vie chrétienne dépend de la façon dont nous intégrons la dynamique de la croix et de la résurrection de Christ dans notre vie quotidienne, que ce soit notre spiritualité, notre citoyenneté ou notre réaction face à l'épreuve. L'orientation de notre vie chrétienne déroule du comment nous comprenons et vivons l'articulation entre la croix du Christ et sa résurrection dans notre vie. Or, trop méditer sur les souffrances du Christ sur la croix, en oubliant sa résurrection, peut engendrer une vie chrétienne morbide ou culpabilisante. Mais proclamer la résurrection en ignorant que le Christ a pris le chemin du service, de l'humilité jusqu'à la croix, peut produire un triomphalisme orgueilleux. Alors la première épître de Pierre, on va en lire les premiers versets, est une lettre de cet apôtre de Jésus-Christ que nous connaissons assez bien, le Pierre des Évangiles. C'est une lettre qu'il écrit à des chrétiens dispersés dans une assez grande région de l'Asie mineure de l'époque, la Turquie actuelle. Ils étaient dispersés géographiquement, mais aussi dispersés au sein d'une société qui cherchait ses références ailleurs que dans la parole du Christ et qui se méfiait de cette nouvelle secte chrétienne. Une société qui, finalement, n'est pas très différente de la nôtre. Cette lettre a un but surtout pratique, exhorter les chrétiens, très minoritaires à l'époque, à vivre une vie chrétienne cohérente, une vie chrétienne belle, devant leurs concitoyens hostiles et sceptiques, et ce malgré les difficultés qu'ils rencontraient. Cependant, dans cette lettre très pratique, Pierre revient sans cesse à la croix et à la résurrection du Christ. Le thème y est tellement présent que certains commentateurs ont même supposé que cette lettre était un message que Pierre avait donné à Pâques pour l'occasion de baptême. Et elle serait tout à fait appropriée d'ailleurs. Mais toute notre vie chrétienne ne trouvait-elle pas son sens et sa motivation dans ce message-là? Les chrétiens à qui Pierre écrit sont sous pression. Leurs difficultés les amènent à douter non seulement de Dieu, mais également de l'authenticité du message de l'Évangile. Ils prêchent Christ ressuscité. Mais où est la victoire? Comment comprendre les épreuves? Dieu les abandonne-t-il parce qu'ils se sont trompés de chemin? Mais Pierre les rassure. Je vous écris pour vous encourager et pour témoigner que c'est bien dans la vraie grâce de Dieu que vous vous tenez. Alors on va lire l'introduction de cette première lettre de Pierre. Donc le chapitre 1 jusqu'au verset 9. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôtes de passage, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacré par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour ? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant, vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, parce que vous y obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Alors vous avez remarqué que dans cette lettre, Pierre appelle les chrétiens étrangers ou exilés, ou selon des traductions, voyageurs, hôtes de passage, résidents temporaires. Ça me rappelle un petit texte que j'ai lu, je crois que c'est dans une église de Nantes, il me semble. Nous ne sommes que des passants qui s'attardent. Comme le peuple d'Israël a dû apprendre à vivre en exil à Babylone, et pas qu'à Babylone, ainsi les chrétiens, par leur foi en Christ, même s'ils ne sont jamais partis de leur région natale, doivent apprendre à vivre dans ce monde comme des exilés, des étrangers. Être exilé, c'est pas toujours facile. L'exilé doit se sentir souvent déstabilisé, marginalisé, frustré de quelque chose. Mais comme chrétien, est-ce qu'on ne s'est pas tous sentis un peu étrangers ? Étrangers dans notre propre pays et pour certains même dans leur propre famille. Étrangers parce que notre foi en Christ nous donne un regard sur le monde qui est différent de celui de ceux qui nous entourent. Exilés parce que notre foi en Christ fait que nous ne nous sentons pas tout à fait chez nous dans ce monde. Nous sommes dans le monde sans être du monde. Mais alors comment vivre cet exil ? Est-ce qu'il faut toujours être dans la tristesse ? Vous savez, les exilés du psaume 137, près des fleuves de Babylone, là-bas, nous étions assis et nous pleurions. Comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère ? Mais Pierre nous dit, non, il ne faut pas être triste. Nous sommes des exilés, mais des exilés sur le chemin du retour. Même si ce chemin est long et difficile pour traverser cette terre étrangère et regagner notre patrie, alors nous pouvons chanter. Les exilés sur le chemin de retour ne chantent-ils pas ? Et Pierre nous propose un chant pour cette route. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour encourager et renouveler les chrétiens, ceux qui se sentent harassés, fatigués, découragés, Pierre les conduit dans un chant de louange à Dieu, au Dieu de la résurrection. C'est la résurrection de Christ qui fait vivre, qui fait espérer. Et le chant que nous pouvons chanter, c'est le chant de la résurrection. Sa lettre s'ouvre sur une formule de bénédiction, bénédiction de Dieu, une prière de louange et d'action de grâce, où il est évoqué l'action de Dieu pour son peuple. Comme dans un psaume, il entraîne ses lecteurs à la louange. Nous louons le Dieu de notre salut. Nous le louons pour tout ce qu'il a fait en notre faveur. Nous le louons pour notre liberté, pour notre héritage. Et comme dans certains psaumes, nous intégrons notre louange à une réflexion sur les épreuves du présent. Dans le psaume 66 en particulier, au verset 10, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous sommes passés par le feu et par l'eau. Mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. » Alors examinons un peu de plus près ces louanges que l'apôtre Pierre nous propose. Tout d'abord, nous comprenons qu'au cœur de l'action de Dieu en notre faveur est la résurrection de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, le peuple se souvenait de l'action puissante de Dieu pour le libérer de l'esclavage de l'Égypte. Et le psaume 66, toujours lui, célèbre en particulier le passage de la mer à pied sec. Le peuple se souvenait de cette intervention puissante de Dieu, que cette intervention était pour lui, pour le libérer, pour que Dieu établisse avec lui une alliance, pour le mettre en route vers la terre promise. C'est ce souvenir renouvelé de l'intervention de Dieu en sa faveur qui nourrissait sa louange et son espérance. Nous, chrétiens, quelques milliers d'années plus tard, nous bénissons Dieu qui est intervenu en notre faveur en ressuscitant Jésus-Christ. La résurrection, c'est l'ultime intervention miraculeuse et puissante de Dieu dans notre monde. Et cette intervention, cette puissance, il l'a déployée pour nous, en notre faveur, pour notre salut. Selon Pierre, la résurrection de Jésus-Christ accomplit pour nous, comme pour le peuple d'Israël, un salut en trois temps. Passé, présent et avenir. D'abord le passé, un salut qui est déjà accompli. La résurrection de Jésus-Christ nous fait naître de nouveau, dit Pierre. Comme Dieu a fait sortir son peuple de l'esclavage en Égypte, c'est fait. L'idée d'une nouvelle naissance n'est pas rare dans le Nouveau Testament. On la retrouve dans la conversation de Jésus avec Nicodème, où Jésus évoque le rôle du Saint-Esprit. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et dans l'épître de Jacques, on lit « Dieu nous a fait naître par une parole de vérité ». Pierre lui dit à la fin du chapitre « Vous êtes nés de nouveau par la parole vivante de Dieu ». La nouvelle naissance est souvent reliée à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu. Quelque part, c'est normal, parce que cette nouvelle naissance est une œuvre spirituelle de Dieu, par son esprit, qui nous rend réceptifs à sa parole et nous réveille à la foi en Christ. Cette nouvelle naissance, elle est intime, individuelle. Elle fait partie de notre histoire personnelle. Même si, pour beaucoup, comme pour notre naissance naturelle, nous n'en avons pas un souvenir très précis. Cependant, Pierre nous rappelle avec force que la résurrection de Christ, c'est l'événement fondateur de la nouvelle naissance. Si Christ n'était pas ressuscité, quel effet aurait le souffle de Dieu sur nous, prisonniers comme nous le serions du tombeau, esclaves de notre péché? Mais selon sa grande compassion. Dieu nous a fait sortir de cette prison avec le Christ. Il nous a donné la vie avec lui. Il nous a fait naître à lui et en lui par la foi. Alors tous ensemble, on peut se souvenir de l'événement de la résurrection de Christ qui a eu lieu une fois pour toutes et qui, pour nous tous qui croyons, nous fait naître à la vie. Alors quoi qu'il en soit et quel que soit notre parcours personnel avec le Christ, Dieu nous a sauvés. Il nous a fait naître par la résurrection de Jésus-Christ. C'est Dieu qui l'a fait. Bénissons Dieu, chantons la gloire de son nom. Mais Christ est aussi avec nous dans le présent. Pierre nous rappelle que de la même façon que Dieu a établi son alliance avec le peuple d'Israël et l'a accompagné dans le désert, ce désert qu'il devait traverser, nous sommes assurés de la présence et de la protection de Dieu sur la route de notre vie quotidienne. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi, nous dit Pierre. C'était dans le présent que les chrétiens à qui Pierre écrivait subissaient brimades, insultes, calomnies. C'était dans le présent qu'ils se posaient des questions, nourrissaient des doutes, se sentaient faibles et vacillants. Mais c'est Dieu qui vous garde, les rassure Pierre. Dieu avec toute sa puissance, la même qu'il a fait manifester en ressuscitant le Christ. C'est lui qui vous garde, qui vous protège, qui vous tient, qui garantit et renforce aussi votre foi, qui vous rattache au Christ. Et nous, c'est aussi quotidiennement que nous avons besoin de lui, pour nous soutenir, nous guider. On a besoin de lui, mais sa présence nous est assurée. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et si Dieu nous garde dans le présent, il va nous garder et nous protéger aussi dans le futur, pour notre salut futur. Sa promesse, c'est d'être avec lui, dans sa présence, dans le futur, dans l'éternité. Et en effet, c'est vers le futur que Pierre encourage les chrétiens à se tourner dans cette prière de bénédiction. La résurrection de Christ fonde notre espérance. L'espérance qui s'attache à ce que nous n'avons pas encore, mais que la puissance et la fidélité de Dieu manifestées à la résurrection de Christ nous garantissent. Ce salut futur, Pierre nous le présente de façon très concrète, voire matérielle. Il parle de notre héritage. C'est aussi comme ça que Dieu parlait de la terre promise vers laquelle il conduisait son peuple, après l'avoir sorti d'Égypte. La terre promise, c'est l'héritage, un lieu de repos, un lieu de vie, une source de bénédiction. Mais le langage de Pierre nous fait penser encore plus à un trésor impérissable, inaltérable. C'est un peu l'écho des paroles de Jésus. Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où ni la rouille, ni les vers ne détruisent, et où les voleurs ne fracturent, ni ne volent. Alors bien sûr, ce sont des images pour une réalité qui nous dépasse. Mais cette réalité, le corps renouvelé de Christ dans sa résurrection, l'anticipe. Le rappel de cette résurrection redynamise notre espérance d'un salut futur pour le saisir comme une réalité vraie, tangible, solide. Quand les difficultés quotidiennes peuvent nous faire douter, voire diluer notre espoir dans un rêve fugace ou limiter notre horizon à notre vie ici-bas et faire en sorte que nous ne recherchions que notre confort personnel. Souvenons-nous de cette réalité, la résurrection. Nous tous chrétiens, exilés que nous sommes, reprenons notre chemin, ne doutons pas. Chantons plutôt et bénissons notre Dieu, qui par la résurrection de notre Sauveur nous a fait naître pour une espérance vivante. Notre salut est garanti, notre héritage est sûr. Levons nos yeux vers l'horizon, vers la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. En notant le parallélisme entre le salut qui doit être révélé et la révélation de Jésus-Christ, celui que nous attendons, ne pouvons pas dire que c'est lui notre héritage et notre salut, que c'est lui notre vie et notre espérance. Ressuscité et vivant pour toujours, il échappe à l'usure de l'histoire. Il est notre trésor. Il est gardé dans les cieux pour être révélé à la fin des temps. C'est comme ça que Pierre encourage ses lecteurs découragés et vacillants dans une nouvelle dynamique de louange, de reconnaissance, de courage pour rester ferme dans la foi, même lors de l'affliction. Renaître à l'espérance permet de trouver le sens des épreuves et la force de les supporter. Pierre ose même appeler ces chrétiens affaiblis à la joie et à l'allégresse. Non pas parce que leurs difficultés ne sont pas réelles, mais parce que l'espérance de leur salut en Christ les relativise. Les épreuves contiennent aussi le sens d'éprouver ou purifier ce qui est le bien le plus précieux de la vie, la foi. Et c'est un thème courant dans la Bible. On le voit aussi dans le psaume 66. Tu nous as éprouvé comme on éprouve l'argent. Notons que Pierre parle de notre foi comme d'un bien précieux, impérissable, plus précieux même que l'or, qui malgré ses qualités n'est cependant pas éternel. Et c'est pas sans rappeler sa description de notre héritage impérissable, comme si la foi et l'héritage étaient faits de la même matière. Et la foi dans le présent, c'est rien d'autre que ce que Pierre décrit. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Est-ce que Pierre a de l'admiration pour ces chrétiens? Lui, il a vu Jésus. Lors d'un déjeuner qui, je pense, il n'a jamais dû oublier sur la plage, Jésus ressuscité lui a demandé « M'aimes-tu ?» Et Pierre, vous savez ce qu'il lui a répondu, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Mais ces chrétiens aiment Jésus sans l'avoir vu. Ces chrétiens, c'est nous. Ce sont ceux dont Jésus disait à Thomas, « Heureux ceux qui croient sans le voir, sans me voir. » La foi, c'est l'amour de Christ dans le présent. Elle est précieuse. Dieu la gardera. Il l'éprouvera aussi pendant notre temps d'exil. C'est pourquoi notre foi est vivante. Tant que nous espérons, nous l'aimons maintenant, celui que nous attendons. Notre foi est en lui seul. C'est pourquoi le présent est joyeux, même s'il est triste. C'est un paradoxe, non? Sans doute, on est moins harcelé que les chrétiens qui Pierre écrivait. Nous marchons néanmoins sur leurs traces. Que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous renouvelle dans notre foi et notre force pour vivre le présent avec ses épreuves, en le bénissant lui pour notre salut et notre espérance. Amen.